Amis auditeurs, bienvenue dans cette émission du CRC, le Centre de réflexion chrétienne d'Eure-et-Loir. Avec vous, Pascal Dupré. Le CRC est une association loi 1901, en lien avec le diocèse de Chartres qui cherche à éclairer nos chemins de vie en portant un regard sur notre société. Il organise cette année 8 conférences. Occasion d'échanger et débattre dans un esprit d'ouverture pour susciter la liberté de penser et promouvoir la responsabilité. Une occasion pour les chrétiens de toute confession de développer leur intelligence de la foi afin d'en être les témoins, personnellement et avec leur communauté. La crise que nous traversons manifeste un besoin de penser ce qui nous arrive et en tirer profit pour transformer notre modèle social. Entre crise économique, sociale, écologique et spirituelle, nous sommes appelés à repenser nos modes de vie en société. Déjà, en 2017, la conférence des évêques de France nous invitait à, je les cite, « investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela s'appelle l'espérance. » Le CRC a choisi comme thème pour son cycle de conférences 2020-2021 « Oser l'espérance chrétienne, c'est mettre plus d'humanité dans le monde. » Avec nous aujourd'hui, Nicolas de Brémond-Dars, prêtre et sociologue, sociologue des religions, ancien chercheur associé au Centre d'études des sciences sociales du religieux, qui sera le 15 octobre à 20h30 à la Visitation, 26 avenue d'Aligre à Chartres, le premier intervenant de ce cycle. Nicolas, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous avez intitulé votre conférence « Un horizon inédit ». Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez se profiler à l'horizon ?
Oh, ben je ne suis pas un prophète descriptif, mais par contre, ce que je peux faire, c'est dire quels éléments me paraissent radicalement différents par rapport au monde que nous avons connu, dans lequel, moi en tout cas, j'ai baigné, puisque ça a été ma culture. Alors, ces quelques éléments, il y en a un certain nombre, mais qui sont de plusieurs ordres. Par exemple, il y a la question démographique qui est très importante avec une population mondiale multipliée par 3, avec aussi un événement absolument inédit dans l'histoire de toute l'humanité, à savoir la coexistence maintenant de 4 générations alors que nous ne connaissions que 3 générations. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, si je pars un peu plus loin, je vais du côté d'écologie. Alors, c'est un sujet qui est très rebattu, qui est largement discuté, mais moi, je n'en soulignerai qu'un seul point pour dire combien c'est différent. Eh bien, c'est que jusqu'à l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, la nature était considérée comme celle qu'il fallait dominer et vaincre. Or, depuis les années 70, la nature est vaincue. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Nous avons toujours appris qu'il fallait combattre contre la nature. Alors, bien évidemment, nous avons une pandémie qui vient nous rappeler que la nature n'est pas complètement morte et qu'elle peut être dangereuse ou susciter des dangers. Mais du coup, vous voyez bien qu'avec cette histoire de nature qui est fragile, c'est ce que nous dit l'écologie, eh bien, nous changeons complètement de dimension humaine. Notre relation à la nature est complètement à transformer. Voilà. Alors, on pourrait rajouter aussi des éléments de type géopolitique, des éléments qui touchent à la culture, qui touchent à la société. Enfin, je pense qu'il y a tout ça qu'il faudrait prendre en charge. Vous voyez, qui font que, eh bien, notre devenir, notre avenir se déploie sur un horizon complètement différent parce qu'on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien comment construire notre humanité.
Aussi sur l'anthropologie ?
Et l'anthropologie, c'est aussi très important. Je prends simplement un élément. Jusqu'à présent, dans nos sociétés occidentales, alors ce n'est pas du tout le cas dans les sociétés de type Inde, pays en voie de développement, etc. Mais nous avons appris à vivre avec la nourriture omniprésente. Et ça fait plusieurs générations que c'est comme ça que nous avons banni les famines et les disettes de notre horizon. Le résultat pratique, c'est qu'on a un rapport à la nourriture, donc au repas, le repas change la nourriture, parce que le rapport à la nourriture change. C'est un exemple, hein, on peut en prendre d'autres choses, on pourrait prendre aussi le rapport au numérique, qui change non pas simplement la technologie, mais qui change la mémoire, c'est-à-dire la façon de faire mémoire de notre vie. Voilà, pour deux éléments anthropologiques importants.
Oui, et donc ça fait se profiler des choses nouvelles ?
Mais des choses sur lesquelles il faut débattre. C'est précisément sont précisément des éléments sur lesquels nous avons une responsabilité en tant qu'humains, et nous avons théoriquement les moyens de décider de notre avenir. Et nous avons les moyens de décider à condition qu'on en prenne les bons moyens. Alors évidemment, vous voyez, dans les problèmes de société ou dans les problèmes de géopolitique, je ne sais pas comment il faut le dire, vous savez, c'est très simple, hein, les régimes politiques durent un certain temps, mais après il faut les changer. Alors quand vous regardez, vous apercevez par exemple qu'en France, le régime démocratique, un certain régime démocratique, c'est pas exactement le même que celui de l'Allemagne ou celui de la Grande-Bretagne ou de voire même de d'autres pays, mais c'est tout de même démocratique. Et bien, ce régime démocratique a été fondé il y a 250 ans, 240 ans à peu près, et donc il a besoin d'être profondément renouvelé. Et c'est vrai dans ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans les débats aux États-Unis, au sujet de l'élection présidentielle. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus vraiment très bien et pour lequel on a une responsabilité. Il s'agit d'établir une nouvelle façon de concerter tous les humains, de leur permettre de s'associer à la production de leur avenir.
Oui. Alors, j'ai vu que vous aviez écrit un livre en 2015, « Catholique, zone de fracture ». Oui. Vous venez d'en publier un autre en 2019, je crois intitulé « Catholique, rouvrez la fenêtre ». C'est la mémoire de prêtres qui ont vécu Vatican II. Comment voyez-vous aujourd'hui les enjeux vitaux sur lesquels la parole des chrétiens peut être sollicitée ?
À mon avis, lorsque vous prenez par exemple l'encyclique du pape Laudato Si, qui est une encyclique sur l'écologie, vous avez vu que ça a suscité un intérêt largement au-delà des cercles catholiques.
Oui.
Eh bien, sur les sujets que j'ai brièvement énumérés, mais que je développerai, vous voyez bien que si les catholiques arrivent à avoir une parole ouverte qui aide les hommes à construire leur avenir et un avenir humanisant, un avenir qui honore les humains, eh bien, la parole catholique sera bienvenue. Et alors, bien sûr, elle se heurtera à des oppositions, mais bon, ça, c'est le cas de toute parole qui est donnée dans ce monde. Dans notre monde, mais il y aura beaucoup de gens qui l'écouteront. Par contre, si les catholiques ne regardent que leur propre nombril en disant « nous avons des problèmes internes et nous ne nous intéressons pas à autre chose qu'aux problèmes internes, qu'ils soient dogmatiques ou autres », alors là, c'est évident qu'on nous laissera accroupir dans notre coin. C'est pour ça que j'avais choisi le titre « Catholique, ouvrez la fenêtre », parce qu'il s'agit d'aller regarder un horizon qui est beaucoup plus lointain, beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que celui des simples catholiques entre eux.
Oui, mais vous aviez parlé de zones de fracture.
Oui, il y a des zones de fracture. Il y a des zones de fracture, en particulier un élément intéressant, c'est que je cite comme ça de manière très générale, bien sûr, mais voyez-vous, depuis... Ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, je parle pour la France, mais ça s'est actualisé, c'est entré dans le vif du sujet, à partir des années 70. Il y avait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, et encore un petit peu après, une espèce d'accord tacite entre le monde politique et le monde religieux, lequel le monde religieux était évidemment essentiellement catholique pour ce qui est de la France. Eh bien, cet accord, c'était que l'Église se gardait bien d'intervenir dans le domaine du gouvernement public, Par contre, on lui laissait le gouvernement privé, c'est-à-dire la famille, la morale, etc. Bon, eh bien, à partir de mettons dans les années 70, à partir du moment où l'État commence à se préoccuper des valeurs familiales, avec l'émancipation des femmes dans le couple, avec le divorce, avec l'avortement, etc., en fait, tout le domaine qui était laissé de manière tout à fait implicite à l'Église a été mangé par le politique. Ce qui fait que la parole de l'Église aujourd'hui est complètement en dysfonctionnement, puisque finalement l'Église s'oppose directement au monde politique. Et quand je dis politique, c'est au sens large, hein, c'est des mondes de gouvernement. Oui. Le monde politique se permet aujourd'hui de parler des affaires de sexualité, des affaires de mariage, des affaires de conjugalité, etc., de soins du corps. Et donc l'Église est en porte-à-faux. Et donc là, il y a une vraie fracture que l'Église n'a pas encore complètement absorbée. Par moments, on se demande si elle a commencé à l'absorber. Il y a une fracture entre ce que l'Église pense qu'elle doit faire et ce que le monde fait. D'accord. Et on pourrait citer comme ça plusieurs fractures. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir d'une position, d'une posture de citadelle assiégée pour se dire qu'on a un monde à construire avec les citoyens de la Terre.
Alors justement, le pape François a invité à transformer la clameur du monde en espérance. Et il appelle à construire une société plus juste sur une planète vivable, pour simplifier. Hein. Dans ce qu'on observe de la crise actuelle, peut-on oser espérer et quelles seraient les conditions pour qu'on trouve des portes de sortie à ces crises?
À mon avis, que peut-on oser espérer? D'abord, je ne pense pas que la crise, contrairement aux espérances de beaucoup de gens, soit l'occasion de braquer dans une autre direction. Bien sûr, tout le monde le souhaite, rompre avec le capitalisme libéral qui dévore les ressources de la planète, etc. Oui, sauf que, avec la vitesse acquise de toutes les mentalités des institutions, dans 5-10 ans, on y est encore. Donc, je pense que c'est pas dans cette direction-là qu'il faut espérer. Par contre, sur les conditions de sortie, oui. Alors il y a énormément espéré, et en particulier, mais alors ça, l'Église n'est pas très bien placée, l'Église catholique romaine n'est pas très bien placée là-dessus, et il y a des conditions qui sont resserrer les liens entre les dirigeants et la population, de manière à ce que la population soit associée aux grandes orientations de société. Pas simplement associé sous forme d'une consultation, comme c'est déjà bien d'avoir fait la grande conférence que M. Macron a organisée sur le climat, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, sur l'écologie, mais en plus, après, il faut assumer les décisions qu'on prend. Quand je dis que l'Église, malheureusement, n'est pas très bien placée, il n'y a qu'à voir comment il y a un bras de fer autour de l'institution synodale. Bien sûr, mais l'Allemagne, par exemple, a organisé un grand synode national, et comme ils nous ont dit, on le fait parce qu'on a envie d'être en accord les uns avec les autres, et que le synode est la meilleure façon de réaliser cet accord. Ça, c'est la tradition allemande dans ce cas-là de meilleure. La tradition du synode romain n'est pas exactement la même. Donc on se demande bien comment l'Église catholique va pouvoir assumer cette participation de tous les citoyens du peuple de Dieu à l'élaboration de son avenir. Et donc là, je crois que c'est là-dessus que l'Église, les catholiques pourraient travailler aujourd'hui, en disant nous exigeons et nous avons besoin que le peuple soit consulté pour, non pas d'une manière référendaire, c'est pas l'occasion, mais justement peut-être d'une manière synodale, c'est-à-dire avec des instruments de travail, avec des commissions et surtout avec des responsabilités qui viennent après.
Oui, et la participation
de tous. Voilà, ma position.
Merci. Bon, je pense qu'il faudra qu'on s'arrête sur cette émission. Merci Nicolas. Vous pourrez réécouter cette émission ou la télécharger partout et à toute heure sur le site Radio Grand Ciel. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à réagir auprès du CRC en envoyant vos questions ou remarques au crc28chartres@gmail.com. Au revoir, chers auditeurs. Merci à Simon qui a assuré la technique de cette émission et bientôt sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.